Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas à la technique. Voilà, alors c'est le début de la semaine, la première émission. Oui, la première émission de la semaine, bien sûr. On va démarrer la première partie d'émission avec la chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault, qui vient nous parler encore de nutrition. Cette fois-ci, il s'agira de... Voilà, de quoi, là? On vit dans un monde cruel. Il existe véritablement des personnes qui semblent ne pas changer avec les années, ni grossir, ni vieillir. Alors, là, je suis bien curieux de ce qu'elle va nous raconter. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir... François Delorme, qui a coécrit un livre avec Gérard Fillon, « L'heure des choix face à l'urgence climatique et sociale ». Quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants? Très bonne question. François Delorme va nous en parler en deuxième partie d'émission. On part tout de suite en musique avec Zoé West, « Control ».
Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express so thankful I am.
Contrôle, waouh, 19 ans avec cette voix. Voilà, on a notre chroniqueuse, la grande Louise Thibault, qui est déjà au bout du fil, qui va nous parler un peu de voilà des gens qui ne grossissent pas, qui ne vieillissent pas, qui vivent. On sait, on vit dans un monde cruel, le monde d'aujourd'hui, mais pas d'aujourd'hui. Le monde a toujours été comme ça.
Bonjour. Oui, bonjour. On ne veut pas grossir, on ne veut pas vieillir.
Voilà. Bonjour Louise Thibault.
Merci pour cette belle intro, Fulgence.
Oui. Alors, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser comme d'habitude.
Oui, c'est ça. Et dans la chanson, on dit I don't want to lose control, but moi j'ajouterais but I want to lose weight.
Oh yes. Allez, je te laisse le micro, Louise.
Vivre, les gens sont toujours prêts. Ouais. Alors voilà, je vais vous parler de ces personnes qui ne grossissent pas.
Oui.
Et c'est un peu une suite à ma dernière chronique.
Oui, la chronique de la semaine passée.
Mais on peut commencer par aujourd'hui quand même, sans avoir écouté ma chronique précédente, parce que je vais vous parler de choses nouvelles. Je vais vous parler de jeunesse minceur et des personnes qui ne grossissent pas, et souvent qu'on dit des personnes qui ne vieillissent pas.
Oui, c'est vrai.
Or, ces personnes existent véritablement. Vous en connaissez peut-être de ces personnes qui disent « Ah, tu fais pas ton âge, tu vieillis pas, tu changes pas, comment tu fais ?»
Oui.
Alors, dans ce monde injuste et cruel, pourquoi est-ce que ça arrive tout ça? Ben moi, je connais des scientifiques de la nutrition qui ont montré, scientifiquement qu'à alimentation et dépenses énergétiques égales, il y a des personnes qui ne prenaient pas de poids avec les années, alors que d'autres grossissent lentement, mais sûrement avec le temps.
Ils vieillissent en même temps. On voit, les traits apparaissent rapidement, quoi.
Ben, c'est ça, oui. Mmh. Alors, je vais vous donner quelques pistes d'explication pour vous dire comment ça, c'est possible. Alors, commençons par...
Oh bien, comment s'y prendre pour arriver pour...
Commençons par le commencement. Comment s'y prendre? Mais je vais vous parler de votre naissance.
D'accord.
Alors, au tout début de notre existence, quand on a fait notre entrée dans ce monde, nous avons hérité de bagages génétiques. Et ce bagage génétique, il détermine en grande partie ce que nous deviendrons, ce que notre corps deviendra, ce que nos cellules deviendront, ce que notre cerveau deviendra au cours de toutes les années de notre vie.
Okay.
Et ce bagage génétique-là, il fait de nous des êtres uniques, avec un corps unique, lui aussi.
Oui.
Alors, notre corps, il est différent de celui d'autres personnes. Il ressemble probablement au corps des membres de notre famille, mais ça s'arrête là.
Oui.
Et les corps peuvent être courts ou très allongés. On n'y peut rien, hein, on ne peut pas modifier sa
grandeur. Oui, on ne choisit pas son corps en voie de naître.
Non. Peut-être qu'un jour, on va arriver à induire des modifications génétiques, mais on n'en est pas là. Et puis les hanches, plusieurs personnes, peuvent se plaindre d'avoir les hanches larges. Et puis ça, on ne peut pas rien y changer. Les jambes sont de formes très, très différentes selon les personnes, effilées, lourdes. Et l'ossature, parlons de l'ossature, on ne peut pas changer son ossature. On est avec des os qui vont devenir, qui vont rester fins pendant tout le reste de notre existence ou on va avoir une grosse ossature et on ne peut rien y changer.
Oui.
Et aussi, on a une masse corporelle qui nous est propre.
Oui.
Et nous vivons dans un monde où les chiffres, les formules, les statistiques font la loi. Et ce que le monde médical a fait, c'est qu'il a attribué à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, une même formule pour calculer la masse corporelle.
Est-ce que c'est juste?
Je vais vous le dire. Vous allez tirer vos propres conclusions, mais cette formule s'appelle l'IMC.
Oui.
Et ça, c'est l'abréviation pour l'indice de masse corporelle.
Oui.
Alors, c'est une formule qui est très, très utilisée en médecine, en recherche. Et c'est tout simplement votre poids en kilos divisé par votre taille au carré en mètres.
Okay.
Alors ça, c'est une formule qu'on applique à tous. Bien que on a tous des caractéristiques différentes, on a une ossature différente,
Ah
on
ouais, c'est ce
est né
qui fait
avec un
que je t'avais
bagage
demandé, est-ce que c'est
génétique.
normal? Est-ce que voilà.
Mais on s'acharne à nous dire que pour être dans la norme, on doit avoir le poids X si on a la taille Y de façon à arriver au bon chiffre d'IMC. Ouais, malgré tout
Ok,
ça.
oui, non, je comprends, je comprends.
Est-ce que c'est juste? Bon.
Non, je, parce qu'on est chacun unique, hein. C'est comme.
Ben oui, c'est ça. Et ce qui est encore plus injuste, c'est qu'on dit qu'il faut avoir une taille fine, des jambes effilées, des jambes interminables pour les femmes, si on est une femme. Et si on est un homme, il faut avoir une musculature virile.
Oui.
Bah,
Est-ce que
à
c'est
quoi
encore d'actualité?
qu'est-ce qu'on doit faire si notre
Louise,
hérédité?
est-ce que c'est encore d'actualité, ça?
Ah ben toujours, si notre hérédité, on a décidé autrement.
Oui.
Ben oui, parce que, en fait, notre bagage génétique, lui, il fait en sorte que certaines personnes vont toujours maintenir un poids qu'on appelle un poids plume,
Oui.
même en mangeant beaucoup. Alors que d'autres vont avoir un poids élevé, quoi qu'elles fassent.
Oui, c'est les poids légers, les poids moyens, les poids lourds.
Ben, c'est ça, ça
Voilà.
existe. Et puis, ce n'est pas nécessairement tributaire de vos habitudes alimentaires.
OK.
Et il est pratiquement impossible pour certaines personnes de perdre du poids et de maintenir cette perte de poids parce que leur poids va revenir inévitablement au niveau qui est déterminé par leur hérédité.
Ah.
Et perdre du poids de façon durable, ben, ça dépend aussi de certains goûts alimentaires qui nous sont propres.
Oui.
Et sachez que nos goûts alimentaires sont aussi déterminés en grande partie par notre hérédité. Et ben, évidemment, nos
Là,
habitudes.
on est mal barré.
Ben, on est mal barré. Et
Hein?
nos habitudes de vie, notre niveau de stress et parfois même notre niveau de bonheur va avoir un effet sur notre appétit et le poids. Donc, et j'ajouterai à cela que nous sommes des êtres pensants pour qui le plaisir est primordial. Vous serez d'accord avec moi sur ça.
Oui.
Le plaisir, ben, ça suscite toutes sortes d'émotions qui sont souvent reliées à ce que nous mangeons. Mais tous ces facteurs dont je vous ai parlé, ça ne fait pas partie de la formule du poids. Pas
Alors,
du tout.
supprenons.
La formule, tous ces facteurs, le plaisir, le bonheur, le stress, les habitudes de vie ne font pas partie de l'IMC parce que l'IMC, qui est la formule générale qui
Oui.
détermine si notre poids est correct ou pas, ne considère que la taille et en fait c'est ça votre poids divisé par votre taille au carré. Donc on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on essaie de déterminer le poids idéal et le poids
Mais
santé.
il faut le savoir cette formule, il faut la connaître.
Ben oui,
Il y a combien
et
de
cette
gens qui, les
formule, si j'ai un
non-scientifiques
peu
comme
de...
moi, Louise,
Je vais vous dire qu'elle a plus de 180 ans. Elle est vieille, cette formule.
oui.
Elle est très âgée.
Bon, pour le non-scientifique, pour
Et c'est ça. Alors, mais laissez-moi continuer
Voilà, je
avec
vous laisse partir.
la définition du poids. Parce que quand on parle du poids, on parle de quoi au juste?
Oui.
Alors, notre poids, il est dû à la force de la pesanteur qui est exercée par la Terre. Autrement dit, une force gravitationnelle lorsque vous vous pesez sur la Terre. Alors, c'est ça, hein? Si vous vous pesez sur une autre planète, là, c'est une autre histoire. Mais nous vivons sur la planète Terre, donc notre poids est dû à la pesanteur, à la force gravitationnelle. Et comment est-ce qu'on mesure ça? Ben, on mesure ça avec un pèse-personne, qui est un type de balance.
Oui.
Et on se tient debout et immobile sur ce pèse-personne lorsqu'on est adulte parce que si on veut avoir une position confortable couchée, ben on en a bénéficié quand on était nourrisson parce qu'on nous a pesé avec un pèse-bébé. Alors, quand on est debout sur le pèse-personne, notre poids, il est indiqué généralement à l'aide d'une aiguille, dont on peut observer parfois avec une certaine crainte le départ, suivi de mouvements d'aller-retour avant l'arrêt définitif sur un chiffre. Et certains d'entre vous, et je peux vous le dire parce que certaines de mes patientes m'ont dit qu'elles avaient tenté de modifier ce chiffre en se balançant de droite à gauche ou d'avant en arrière pour alléger la charge. Alors on peut essayer cette tactique-là pour modifier le chiffre, mais c'est pas du tout mais c'est couronné de succès parce que
mais c'est de la tricherie, c'est de la tricherie.
Va arriver à un chiffre inéluctable, que vous l'aimiez ou pas.
Lui, c'est de la tricherie, ça.
Ah ben oui, on peut essayer de tricher, mais c'est très difficile. Et c'est encore plus difficile de duper le pèse personne quand on est dans le cabinet du médecin.
Alors là, il a l'œil sur nous, là.
Ah oui, c'est ça. Alors le pèse personne des cabinets médicaux et nutritionnels.
Oui.
Et souvent un modèle dont le principe, écoutez-moi bien, daterait de la balance romaine. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on se pèse sur un pèse-personne.
Oui, une balance.
Ah oui, les Romains l'ont fait avant nous. Alors, ce pèse-personne médical, il nécessite parfois la présence d'une personne qualifiée.
Oui.
Ah oui, parce que c'est une personne qui doit être qualifiée parce qu'on ne le fait pas soi-même. Hein? Ce n'est pas nous qui déplaçons le contrepoids qui est situé sur la barre horizontale du pèse-personne.
Et ceux qui en ont chez eux à la maison en privé.
Ah, hein, c'est ça.
Qui se
oui,
pèsent tous les matins là, pour ne pas pleurer toute la journée après.
Ah oui, c'est ça. Et vous faites une grande erreur. Il ne faut jamais se peser tous les jours.
Alors, ceux qui écoutent Louise actuellement, faites attention. S'il faut cacher votre balance ou bien votre pèse-personne quelque part là-bas sous le lavabo.
Ce que vous allez faire immédiatement après avoir écouté ma chronique.
Je te laisse continuer, Louise.
Alors, même avec ce pèse-personne qui daterait de la balance romaine, le déplacement du contrepoids sur la barre horizontale qui est marquée de chiffres, eh bien, il doit permettre d'atteindre un parfait équilibre. Alors, c'est ça. Et puis, c'est un instrument que vous ne pouvez pas duper non plus. Mais il y a une autre façon de mesurer votre poids,
oui,
le confort de votre foyer, et vous pouvez jouir de la facilité d'utilisation et de la rapidité du pèse-personne affichage numérique.
Oui, expliquez-nous ça.
Ah ben oui, alors si vous avez un affichage numérique, eh bien, vous allez connaître sans hésitation aucune votre poids en chiffres rouges.
Ah bon, OK.
Alors voilà. Donc, c'est ça notre poids, on n'y échappe pas. En fait, peu importe le modèle utilisé, le poids qui s'affiche, il détermine plusieurs aspects de notre vie. Et dès la naissance, notre poids, il est mesuré et répertorié. Donc, au moment où on entre dans la vie, on a ce chiffre qui nous colle à la peau, qui nous identifie en quelque sorte et qui font de nous un être identifiable. Alors, notre poids, il nous échappe, il fait partie du domaine public à partir du moment où nous naissons. Et on l'utilise de façon très utile en médecine parce qu'un bébé de petit poids, il sera aux petits soins jusqu'à temps que le poids atteigne un niveau acceptable pour l'âge.
Oui.
Et la gestion du poids peut se poursuivre avec des courbes de croissance qui déterminent la normalité lors de la petite enfance. Alors, je suis une femme enceinte aussi, c'est important, la gestion du poids, mais c'est par la suite que ça se gâte. Et non seulement les médias, l'industrie de l'esthétique s'en sert, mais aussi les compagnies d'assurance utilisent notre poids à outrance.
Oui, pourquoi?
C'est quelque chose dont je n'aurai pas le temps de vous parler.
Pour les remboursements, on reviendra là-dessus.
Pour
les remboursements et autres, je m'en doute.
Oui, mais pour autre chose aussi.
Voilà, c'est pour dire que je mange trop, Fulgence, il mange trop. Non, il n'a pas droit au...
Ils ne savent pas, mais ils savent votre poids.
Oh, wow.
Et oui, notre poids fait partie du domaine public.
Ouais. Est-ce qu'il y a un coup de cœur aujourd'hui?
En fait, oui.
Okay.
En fait, oui,
rapidement,
il y a un coup de cœur dont je voulais vous parler. Il y a de ça plusieurs semaines, je n'en avais jamais le temps. Mais j'aimerais vous parler du domaine du Nobel de médecine 2021.
Oui.
Il a récompensé des spécialistes du toucher. Et l'été dernier, j'ai fait toute une série de chroniques estivales sensorielles où je vous ai parlé de la vue, du goût, de l'ouïe, de l'odorat et aussi du toucher. Alors, ce sont deux Américains spécialistes du toucher qui ont utilisé un pigment, pas un pigment, mais un composé du piment qui qui procurent une sensation de brûlure et qui ont identifié des capteurs importants pour le toucher. Alors, on sait que le toucher est extrêmement important pour apprécier les aliments et voilà que le toucher vient de se mériter une place pour le Nobel de la médecine. Alors, la prochaine fois que vous toucherez un aliment ou que vous sentirez un aliment dans votre bouche, ben, pensez que c'est drôlement important comme sens pour bien manger, pour avoir du plaisir quand on mange. Alors, c'était ça mon mot de la fin.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Et on se revoit la semaine prochaine.
La semaine prochaine pour la suite.
Voilà, pour la suite. Toujours instructif en musique.
OK, au revoir.
Au revoir.
J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas de compte à personne, pis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si j'vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi, il me semble que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde à travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi. Ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois bien, ça fait pas leur affaire. Tant que tu es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre, tout le monde tourne le doigt, l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les heures. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça pour la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie, puis tu fais ben tout ce qui te fait vibrer. Je veux faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi, il me semble que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je veux faire les choses à ma manière.
Roxane Bruno, à ma manière. Alors là, comme je disais à Nicolas Rohand, vraiment, nous sommes mal barrés. On est mal barrés parce qu'on a beau faire attention, on prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas grossir, pour ne pas vieillir. Disons, pour mieux vieillir, parce qu'on le veuille ou pas, on peut pas arrêter de vieillir, ça c'est clair. Voilà. Mais quand tu écoutes notre spécialiste chercheuse, notre spécialiste de nutrition, lui, tu te dis, mais au fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Alors, non, ça ne me déprime pas. Hein. Moi, je ne me mets pas au régime. Là. Bon, je mange ce qui me tombe sous la main. On termine la première partie de l'émission avec Zahara, ma guitare. Et puis en deuxième partie, on va recevoir François Delorme pour parler de ce livre, L'heure des choix, face à l'urgence climatique et sociale, coécrit avec Gérard Filion.
Another bird has gone. Another part of each of us is gone, yeah. Another light has been drawn, but we go on until
much of us are all too real. Till I can not able to feel how you feel. And I cannot say how long it would take for you to heal, but I believe you're healed, you're healed, you're healed. I believe you're healed, you're healed, you're healed. Someday you're broken heart to mend, yeah, and you'll find a smile again, yeah, yeah. So take your time, for time it's what it's gonna take. And then you awake to find there's one less tear. I believe you're healed, you're healed, you're healed. I believe you're healed, you're healed, healed. I believe you're healed, you're healed, healed. I believe you're healed. Explain could not be found. For me to say I understand is not enough. All I can say is hold on until someday your broken heart will mend. Yeah, yeah, and you'll find a smile again. Yeah, yeah, so take your time. What it's gonna take, and then you awake to find there's one less tear. I believe you're healed, you will be healed. I believe you're healed, you're healed, you're healed. I believe you're healed, you will be healed. I believe you're healed, you're healed.
Maïguita dans cette chanson, elle nous parle de des amis qui sont partis, tout le monde l'a laissé, mais quand elle revient chez elle, sa guitare est assise où elle a, là où elle a placé, comme ma guitare est là, elle m'attend, elle me quittera jamais. Restez à l'écoute, on vous revient après la petite pause publicitaire pour recevoir notre invité François Delorme qui va nous parler de l'heure des choix face à l'urgence climatique et sociale coécrit avec Gérard Fillion. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer. Y'a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent, de voir du feu d'un yeux. Si un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille. La gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles. Si les filles sortent en ville, juste deux barres, je fais des yeux. Si un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tournes Le livreur de lait passe encore le matin. On vit de pêche à glace, de bateau, de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage aux îles. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de barbe au feu des yeux. Si un party des îles, prévoyait le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de barbe au feu des yeux. Si un party
Laurence Saint-Martin, oui, fille des îles, fille au pluriel, fille des îles. Alors, notre invité déjà avec nous, Fonçon Delorme, qui va nous parler de ce beau livre qui sera en librairie déjà bientôt. J'ai dit déjà parce que ça va être après-demain, il n'est pas encore en librairie. Après-demain, l'heure des choix face à l'urgence climatique et sociale. Quelle planète voulons-nous léguer à nos enfants? Il a coécrit avec son collègue Gérard Filion. Et pour ceux qui ne connaissent pas François, c'est un enseignant au département d'économie de l'Université de Sherbrooke qui dirige sa propre firme de consultation d'ailleurs. Il est également chercheur au Laboratoire des inégalités mondiales dirigé par Thomas Piketty, ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances à Ottawa et ancien économiste principal à l'OCDE à Paris. Il a fait paraître de nombreux ouvrages de vulgarisation économique, figure très présente dans les médias d'ailleurs. Il collabore à Zone Économie et à l'émission Pénélope sur Ici Première. Bonsoir François Delorme.
Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Je vais bien, merci, et vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de ce beau livre, de ce... Il sera en librairie dans deux jours, hein. Aujourd'hui c'est le 8, le 10.
Le 10, voilà.
Qui n'est même pas encore sur les tablettes là, dans les libraires, chez les libraires. Et puis je me suis dit, bon, quand je l'ai reçu, j'ai commencé à le parler, que j'ai dit, waouh. Alors, je ne sais pas si c'est François qui allait vers Gérard, Gérard qui allait vers François, pour faire naître ce bel essai-là. Qui d'entre vous a eu l'idée? C'est autour d'un café, autour d'une bière, ou bien au bureau? Comment ça s'est passé?
Non, l'idée, c'est vraiment Gérald qui l'a eu quand il a décidé. Gérald fait un balado à Radio-Canada à chaque semaine.
Oui.
Où il discute avec un invité sur une question spécifique. Ça peut être la nature, l'immigration, la croissance, la pauvreté. Et l'idée de Gérald était, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment est-ce qu'on peut amener la réflexion au-delà d'une une heure de radio?
Oui.
Ou de balado? Et c'est lui qui a eu l'idée de transcrire l'entrevue, de la transformer pour que ça soit lisible et que le narratif soit un peu plus intéressant. Et il m'a proposé de dire, bon, ben, voici ce que l'invité dit, voici, il présente les faits, un diagnostic. On aimerait avoir un contrepoint à ça.
Oui.
On aimerait avoir une vision qui est un peu... qui va au-delà de ce que les économistes disent d'habitude. Vous savez, la phrase... la réponse parfaite à une question d'un économiste, c'est toujours « ça dépend hein? ». Et ensuite, la deuxième phrase,
oui,
c'est
« oui, ça
d'une
dépend.
Part et d'autre part mm-hmm. ». Alors, ce n'est pas ce que Gérald voulait. Il voulait avoir quelque chose qui est un peu plus vindicatif, un peu plus avec un peu plus de dents. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais carte blanche pour commenter chaque balado. Alors, il y en a 17. et qui ont été retranscrits, retransformés, réécrits par la plume élégante de Gérald. Et moi, j'avais quelques pages pour commenter chaque segment.
Oui, oui. Et moi, personnellement, quand j'ai ouvert le livre dans l'avant-propos d'ailleurs, vous dites, nous vivons trois crises, hein, climatique, sociale et économique. On ne pense jamais à ça.
C'est ça, exactement. Ben, c'est parce que, comme on dit un peu dans le livre, jusqu'à récemment, on traitait chacune de ces questions-là séparément. Et on s'est aperçu avec le dérèglement climatique que chaque crise ou chaque situation critique nourrissait l'autre et que c'était une erreur d'essayer d'utiliser trois paires de lunettes différentes pour traiter une de la pauvreté, une du climat et l'autre de la croissance ou de l'économie. Donc, on s'est aperçu que toutes ces crises-là, il fallait les traiter comme une seule grande crise.
Oui.
Donc, par exemple, les perturbations du climat, par exemple, vont affecter les inégalités et évidemment, les inégalités vont affecter la croissance qui, elles-mêmes, vont émettre des GES, donc qui vont avoir un impact sur l'environnement. Donc, on voit bien que c'est un cercle et que si on traite juste un segment du cercle, ben on oublie les deux autres, on oublie la dynamique si on ne traite pas des crises en même temps. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire, jeter un éclairage sur différentes questions qui touchent ces trois points de triangle-là qui sont l'économie, l'environnement et les inégalités.
Et les inégalités. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous attendez des messieurs en cravate à Glasgow?
Qu'est-ce qu'on attend du monsieur en cravate?
Des messieurs en cravate à Glasgow, à la COP26. Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Oh, c'est une longue... Je ne sais pas, mais mes attentes à moi sont plutôt faibles. Vous le savez, la coordination internationale, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et les règles de l'ONU font qu'il faut avoir un consensus. On ne peut pas avoir de dissensus et donc ça rend avoir des décisions où il y a 192 pays qui adhèrent à la même vision, ça veut dire que cette vision-là, nécessairement, elle va être édulcorée. Et c'est difficile d'avoir une décision qui est édulcorée, je vais répéter ce mot-là, quand on parle du climat, parce que c'est une question trop sérieuse et pour laquelle le compte à rebours fait toujours son tic-tac et on va manquer de temps. Alors, tout le monde dit que ça prend des solutions radicales, mais on dirait que pour la COP, le processus des réunions de COP ne se prête peut-être pas. C'est peut-être pas idéal pour amener une concertation au niveau international qui, je vais vous le dire, sur la même lancée, est nécessaire. Alors, c'est comme si on a besoin de quelque chose, on a besoin de se tenir la main, mais le processus par lequel on se tient la main est tellement complexe qu'on en arrive à des poignées de main qui sont très fragiles. Alors, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. On verra bien à la fin de la semaine qu'est-ce qui va se passer. On connaît les solutions.
Oui.
On les connaît. C'est juste que c'est la mise en œuvre qui est extrêmement difficile.
Vous voyez, François, je suis tombé sur un article sur l'environnement. Il y a l'Australie qui n'abandonne pas la production de charbon. On sait que c'est le premier pays producteur mondial, exportateur mondial de charbon. Bon, ça, c'est sa poule aux œufs d'or. Bon, peut-être que je ferai pareil, mais je ne sais pas. Le premier ministre du gouvernement australien retourne en Australie et en même temps, le ministre australien de l'énergie dit « Non, nous, on n'arrête pas maintenant. On va continuer l'exportation, la production du charbon dans les prochaines décennies. » J'ai dit « Mais ils nous prennent pour qui ?»
Ben, c'est un peu ça. C'est difficile de ne pas être cynique.
Oui.
C'est quand les Chinois, par exemple, qui sont... parmi les plus grands émetteurs de GES à cause du charbon, nous disent ils ne sont pas à Glasgow en passant.
Oui.
Et donc,
mais ils ont envoyé une délégation au moins.
Oui, mais c'est symboliquement, c'est quand même un signal fort. J'envoie mon ministre de l'Industrie négocier quand tous les grands de ce monde sont là. Je trouve que c'est important comme signal. Et le deuxième... peut-être qu'ils n'ont pas utilisé une position comme les Australiens, celle que vous avez expliquée, mais ils disent « Non, 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 nous allons atteindre la carboneutralité en 2070. »
Oui.
Alors, vous voyez, politiquement, je peux défendre, oui, j'adhère à une position où les GES vont diminuer, mais c'est tellement loin. Le GIEC nous dit, le GIEC... plusieurs rapports du GIEC, dont le premier qui est, évidemment, ils augmentent toujours en niveau critique. Mais le dernier était en août 2021, nous dit, nous avons jusqu'à 2030 pour changer le cours de l'histoire pour la lutte au changement climatique.
Est-ce que c'est faisable?
Donc, je peux adhérer à la carboneutralité totale, même négative,
oui.
En 2070, mais ça sera 40 ans trop tard, vous voyez. Donc,
Oui.
C'est une posture politique qui n'a pas de sens, mais qui se défend diplomatiquement parlant, je crois.
Oui.
Mais dans les faits, c'est pas pertinent.
Ouais, je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais je ne suis pas triste, mais ça me décourage parce que des gens qui vont à des réunions, qui repartent, qui ressortent de là et puis qui font des déclarations après. Non, moi je ne suis pas prêt à arrêter l'exportation du charbon parce que c'est ma poule aux œufs d'or. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas à la réunion? Ça, c'est pas. À notre niveau, en tant que citoyen, en tant que citoyen lambda, la société civile, on fait ce qu'on peut faire avec les tri des déchets. On a 2, 3, 4 poubelles. Mais après, j'ai dit les messieurs en cravate, parce que c'est eux qui prennent les décisions, les hautes décisions qui peuvent influencer peut-être ce qu'un État ou bien un gouvernement ou bien un pays peut appliquer. Ce n'est pas nous autres, la population civile.
Oui, et puis je pense que maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on est, vous avez tout à fait raison, Fulgence, et on sait aujourd'hui, il y a des principes que l'on doit appliquer qui sont maintenant comme connus, qui sont bien reconnus, je dirais. On n'est pas tous égaux devant la crise climatique.
Voilà, on va revenir. François, on va faire une petite pause musicale. Ça, là, j'aimerais j'aimais cette partie-là dans le livre aussi, cette histoire d'inégalité là, concernant la crise.
Non, mais,
oui.
Mais elle est, c'est tout à fait vrai.
Oui, oui.
On pourra en parler quand vous voulez.
Oui, 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 à tout à l'heure. On fait une pause musicale.
Parfait.
Et puis on vous revient.
Parfait.
Oui.
I wrote a song about you guys and I wanted to show it to you. Here we go.
I wanna come home to roses and dirty little notes on post-its. And when my hair starts turning gray, I'll say I'm like a fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents, that true love starts with friendship. A kiss on the forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and go. Oh, with someone who makes me feel young, I need a man who loves me like my father loves my mom. I want a road trip in the summers. I wanna make fun of each other. I wanna rock out to Billy Joel and flip our kids off when they call us old. He'll accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shapes, he'll say, oh my God, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and go. Oh, with someone who makes me feel young, I need a man who loves me like my father loves my mom. If he lives up to my father, maybe he could teach our daughter what it takes to love a queen. She should know she's royalty. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and go. Oh, with someone who makes me feel young, I need a man who loves me like my father. My mom.
Jax. J-A-X, c'est le titre de la pièce. C'est le nom de la jeune fille qui vient de nous chanter Like My Father. Elle aimerait trouver quelqu'un qui doit l'aimer comme son père aime sa mère. Voilà. On est toujours avec notre invité, François Delorme, à qui je dis bravo et félicitations avec son collègue Gérard Filion de nous avoir sorti ce beau livre. Moi, depuis que je l'ai reçu, il est toujours dans mon sac. En train de, quand je pense à la Coupe 26, je sors et puis je lis des trucs. Je dis merci à vous deux, François et Gérard. Très beau livre. Il sera en librairie dans deux jours. Aujourd'hui, c'est le 8, c'est le 10. Il sera en librairie. Allez-y, vous cherchez une copie si vous ne l'avez pas. Ne dites pas, il est déjà là. Non, il sera là le 10. Allez-y, cherchez votre copie si vous aimeriez découvrir tout ce que François Delorme et Gérard Filion ont mis à notre disposition. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un bijou. Voilà, je dis bravo à vous deux. François ?
Merci, vous êtes bien gentil.
Ah ouais. On donne à Gérard ce qui appartient à Gérard.
Oui, tout à fait.
Voilà, on va parler des inégalités concernant cette inégalité de richesse-là. Les pays pauvres, les pays riches, ou bien les riches du monde, dans le même pays, même dans le même pays, à l'intérieur d'une même nation, on trouve des inégalités entre les riches et les pauvres. Que ce soit... Ouais. Climat, sur le plan climat ou bien pandémie et autres, expliquez-nous. J'ai dit, mais c'est pas possible, on est mal. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est quand vous me parliez tout à l'heure de la COP26 à Glasgow,
oui.
Je vous ai dit avant la pause musicale, nous ne sommes pas tous égaux devant la lutte au changement climatique.
C'est ça.
Et il y en a qui sont plus responsables que d'autres.
Oui.
Hein?
Oui.
Quand on dit que 10% des pays sont responsables de 80% des émissions de GES,
oui.
C'est évidemment les pays riches. Et à l'intérieur de ces pays riches-là, c'est les gens riches qui sont capables de prendre l'avion, qui sont capables de s'acheter plusieurs véhicules, qui sont responsables plus que d'autres de la détérioration du climat. Donc, on devrait établir une notion de responsabilité.
Oui.
Qui est responsable? J'ai contribué à salir le plancher,
oui.
Ben, c'est à moi à nettoyer le plancher. Ça, c'est la première chose.
Oui.
Et la deuxième chose, y a des économistes comme Thomas Piketty, par exemple, en France, avec Lucas Chancel, qui ont travaillé là-dessus, ils ont dit, ben, écoutez, si, par exemple, ce sont les riches, des pays riches qui sont responsables de la détérioration du climat, ben, pourtant, pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas, par exemple, les biens dont les riches se prévalent, par exemple, prenons un exemple, les vols internationaux.
Oui.
Donc, on pourrait dire, et ça, c'est vraiment intéressant parce que une des choses qu'on essaie de régler à la COP26, c'est de dire les pays riches devraient donner 100 milliards de dollars américains par année pour que les pays pauvres puissent se protéger, puisqu'ils peuvent construire des digues, puisqu'ils sont se protéger contre le dérèglement climatique dont ils ne sont pas responsables en passant.
Oui.
Et donc, Thomas Piketty a dit, ben, si on mettait une surtaxe de 300 dollars sur les billets de première classe, et les billets en classe affaires, et de 50 $ sur la classe économique, on arriverait, avec le volume de passagers que l'on a aujourd'hui dans le monde, à remplir la cagnotte de 100 milliards.
Donc, oui.
Vous comprenez le principe de dire, bon, vous voulez prendre l'avion, on va surtaxer les billets d'avion,
oui.
On va prendre des recettes de ça, on va verser ça aux gens qui subissent les dérèglements climatiques,
oui.
Les sentinelles qui vont les premiers subir les dommages du climat, et donc ça serait une façon de le faire. Vous voyez le principe d'établir une responsabilité pour transférer, c'est une sorte de péréquation, si vous voulez, de dire, ben, je paie parce que je contribue au problème, mais je vais contribuer à la solution aussi,
oui.
Mais ça veut dire que je devais être plus taxé, et en même temps, eh bien, on peut, c'est les gouvernements qui doivent faire ça, qui doivent s'entendre pour dire, ben oui, nous allons taxer. Et c'est la même chose au niveau des inégalités de richesse. On doit taxer les plus riches pour permettre aux pauvres d'avoir un niveau de vie décent.
Oui. Vraiment, c'est, je sais pas. Merci beaucoup de l'éclaircissement. Bon, à problème dans un de vos deux chapitres, à problème global, solution globale. Si on parle un peu, vous m'avez ouvert un peu les yeux sur les réfugiés climatiques. Est-ce que ça touche tout le monde?
Oui.
Est-ce que ça touche tout le monde?
Ben ça c'est vraiment important, parce que là, on est rendu dans la géopolitique.
Oui.
Et là, ça veut dire que, oui, c'est quand même drôle, Fulgence, ce qui s'est passé cette semaine,
oui.
où vendredi dernier, le représentant des îles Maldives, le Nigeria et plusieurs pays ont dit, mais on ne peut pas avoir un objectif de 2 degrés, de limiter le réchauffement à 2 degrés, parce que nous, à 2 degrés, si on tolère 2 degrés, nous sommes inondé.
Oui.
Donc, on ne peut pas souscrire un objectif de 2 degrés. Nous, il faut que ça soit 1,5.
Ouais.
Alors, c'est ce problème-là des réfugiés climatiques, il va devenir extrêmement important, avec toutes les conséquences dont on peut appréhender au niveau de comment est-ce qu'on absorbe ces réfugiés-là. Ils doivent partir, mais ils vont où? Et on les accueille comment? Et est-ce qu'il y aura une solidarité internationale pour les accueillir? Mais là encore, on y a un compte à rebours. Alors, ça va arriver et il faut essayer de prévoir quels sont... L'idée avec le climat, c'est d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va arriver. On parle de « Ah, mais il faut arrêter d'exploiter les énergies fossiles. » Mais OK, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Oui.
Il y a des travailleurs, il y a des emplois qui sont en jeu. Et donc, il faut prévoir comment est-ce que on va reformer, requalifier ces travailleurs-là dans d'autres industries. Mais ça ne se fait pas en 24 heures.
Oui.
Donc, tout ça, c'est des problèmes qui sont sur le moyen terme. Et le moyen terme, je vous le dis, Vulgence, pour moi, c'est 2030. Alors, 2031, c'est trop tard. Alors, je ne veux pas dramatiser, mais si on vit ça et qu'il faut tout faire, la finance verte,
oui.
la taxation sur le carbone, les réfugiés climatiques, si on dit nous avons 9 ans pour régler et établir un plan d'action et le mettre en œuvre aujourd'hui, on a une chance de s'en sortir.
Donc, François, vous dites que quand on dit 2030, ça doit être 2030, mais pas 2031, pas 2032.
Exactement.
Si je comprends bien.
Exactement.
Là où vous me faites peur. Hein.
Le GIEC nous dit autour de 2030.
Oui.
2032, 2035, mais je ne la connais pas, la date.
Oui, je comprends.
Mettons-nous comme objectif 2030 et appliquons le principe de précaution qui nous dit faisons tout ce qu'on a à faire pour 2030 et ne jouons pas avec le feu. Ce qu'on veut éviter, c'est être devant une abysse et d'y plonger tous ensemble comme les moutons de panurge. C'est ça qu'on veut éviter.
C'est ce qu'on veut éviter, oui. Wow. Je vous le dis, chers auditeurs, auditrices, ce livre sera en librairie à partir du 10, au lieu de celle du 8, c'est dans 2 jours. Et celui qui rate ça là, s'il n'y a plus de copies, là, il faut attendre les prochaines impressions. L'heure des choix face à l'urgence climatique sociale. Pour les 2 dernières minutes qui nous restent, vous dites, on est loin d'une relance juste. Encore, il y aura encore, même s'il y a une relance, il y aura encore des inégalités là-bas.
Ben, les inégalités, elles vont toujours exister. Ce qu'on veut, c'est minimiser le fossé entre les riches et les pauvres et être capable de donner un niveau de vie décent aux pauvres. Et je ne parle pas seulement des pauvres des pays riches, je parle des pauvres au niveau de la planète.
Au niveau de la planète, oui.
Y a quand même 40% de la population sur la Terre qui ne vit qu'avec 2 dollars par jour.
Oui.
Donc, il faut avoir un élan de solidarité et ce n'est pas le secteur privé, Fulgence, qui va faire ça. Le mandat d'une compagnie, Google, Apple, Amazon, ce n'est pas de s'occuper de la lutte à la pauvreté.
Oui.
Ce n'est pas de s'occuper des banques alimentaires. Donc, ce sont au gouvernement de se lever, de prendre leurs responsabilités et de construire une solidarité sociale en disant « Toi, riche, t'as eu de la chance, tu es né dans un pays qui a favorisé le fait que tu as pu avoir un revenu décent et un niveau de vie acceptable.
Oui. »
Ben, c'est le temps de tendre la main à quelqu'un qui n'a pas eu cette chance. Et ce sont les gouvernements ensemble et les gouvernements séparément qui doivent établir un système d'aide et de solidarité comme celui-là.
Oui.
Ce n'est pas à l'entreprise privée. Et nous pouvons le faire, Fulgence, toi, vous et moi, mais nous sommes qu'un petit pas dans ce grand chemin-là.
Okay.
Donc, il faut que ce soit plus systématique.
Plus systématique. François, pour les dernières 30 secondes qui nous restent, est-ce que vous et votre collègue Gérald, vous prévoyez faire des conférences à la sortie du livre, pas seulement le lancement, dédicace, mais est-ce que... Parce que là, ce livre-là, vraiment, pour moi, c'est... C'est toute une bibliothèque. Hein, c'est...
Le livre sert de base à une discussion.
Oui.
On ne tient pas la vérité, moi non plus, Gérald non plus. C'est des points de vue, mais ça permet de un peu mettre des faits et de dire, OK, mais est-ce que, par exemple, dans un des chapitres, on parle de la voiture électrique. Est-ce que c'est vraiment
la solution ultime,
qui va
ouais.
nous sauver? Mm. Ben oui et non. Donc, l'idée ici, c'est d'établir un contexte. Et oui, nous allons faire des conférences. Nous allons en avoir un débat dans le cadre du Cœur des sciences au Salon du livre de Montréal.
Oui.
Et il va en avoir dans tous les salons du livre. Et après, on va probablement se promener pour essayer d'établir un dialogue ouvert, honnête et respectueux sur ces questions-là.
Merci beaucoup, François Delorme, enseignant au département des diplômes de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. J'en voulais encore plus, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Au plaisir de vous réentendre et de vous croiser à un salon de livres.
Un grand plaisir. Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup, François Delorme. Merci. On est à la fin de l'émission comme ça. Merci beaucoup à Louise Thibault et merci aussi à François Delorme pour